Merci Tiffaine, bon week-end. Deux invités et François Villon, poète sans portrait, né on ne sait quand, disparu on ne sait où, biographé par l'historienne Sophie Cassène-Brouquet et représenté par l'auteur de bande dessinée Luigi Crittone.
La Compagnie des Poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Sophie Brouquet, Luigi Crittone, bonjour, bienvenue à tous les deux. Luigi Crittone, vous êtes dessinateur, scénariste, formé à Florence, installé à Paris. Le registre médiéval est un peu devenu le vôtre, malgré vous, hein, on y reviendra. Il y a eu notamment 7 missionnaires sur un scénario d'Alain Hérol, une affaire de moines et de vikings dans l'Irlande du 9e siècle. Et puis il y a « Je », François Villon, toujours chez Delcourt, le troisième et dernier volume qui paraît aujourd'hui, titré « Je crie à toutes gens, merci ». Villon a 30 ans, semble déjà un vieillard. Les 2 ans qui lui restent avant sa volatilisation en 1463 le mènent dans la prison terrible de Main, puis retour à Paris comme étranger à lui-même. Une dernière rixe, l'emprisonnement au Châtelet où il écrira la fameuse balade des pendus et la condamnation à l'étranglement et à la pendaison avant finalement bannissement de Paris, puis disparition. Un Villon possible, emprunté au roman biographique de Jean Tellet, paru en 2006. Un Villon plus probable, c'est le vôtre, Sophie Brouquet, professeure d'histoire médiévale à Toulouse, auteure déjà d'une histoire des vies de femmes au Moyen-Âge et des chevaleresques, hein, une chevalerie au féminin, ça c'était en 2013. Et vous signez aujourd'hui « De moi, pauvre, je veux parler, vie et mort » de François Villon, chez Albin Michel.
Pères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous, merci. Vous nous voyez si attachés 5, 6, quand de la chair que trop avons nourrie, et les pièces à dévorer et pourrir, de nous les eaux devenons cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
On commence donc par la fin, la balade des pendus, 1462, chantée par Serge Reggiani en 68 sur une musique de Louis Bessières. Qui est François Villon au moment où il compose cette presque dernière balade ?
Oh, c'est un homme qui est persuadé d'avoir, peut-être à juste titre, raté sa vie. Il avait beaucoup de cartes en main au départ, bien qu'issu d'un milieu modeste. On peut dire qu'il a eu une enfance assez choyée. Et une adolescence aussi. Et il a, pour des raisons qui tiennent probablement à sa psychologie, à son caractère, et aussi au milieu dans lequel il se trouvait à Paris, il a un peu gâché toutes ses cartes et il est tombé dans la délinquance. Et d'ailleurs, c'est en tant que délinquant que je me suis intéressée à lui, en poète aussi évidemment, puisque j'avais travaillé sur la violence des étudiants, les délinquances des étudiants au Moyen-Âge.
Et donc précisément, le moment de cette balade des pendus.
Alors, au moment où il est emprisonné au Châtelet, c'est vrai que la situation est quand même très injuste. Il a été gracié pour un meurtre qu'il avait commis. Et là, parce qu'il est récidiviste, un multi-récidiviste, comme on dirait aujourd'hui, il est condamné à être pendu alors qu'il a, pour le coup, rien fait.
Hein, il a assisté
Presque rien. Il a assisté à une bagarre, mais vraiment, il n'en était pas responsable. Et ça lui paraît d'autant plus injuste.
Ce qui lui arrive souvent, hein, de trouver des choses injustes en ce qui
le
concerne.
Oui, il est persuadé
victime.
Que la fortune se rit de lui, alors que, en fait, elle l'a souvent sauvé quand même.
Vous prévenez dès les premières pages, dans une courte introduction, François naît on ne sait quand et disparaît sans laisser de traces en janvier 1463, on ne sait où. Dans cet entre-deux incertain, il rit, il pleure, s'amuse, s'angoisse, joue des tours et fait l'amour. J'imagine qu'on pourrait ajouter et écrit des poèmes. Un matériau historique à trous, donc avec ses ambiguïtés, ses doutes, ses incertitudes. Au fond, ce que l'on sait, c'est ce que nous dit sa vie judiciaire, sa vie universitaire aussi, un petit peu en tout cas, et ses poèmes, bien sûr, ce qui donne lieu pour l'historienne que vous êtes à une biographie écrite avec pas mal de points d'interrogation, un peu de conditionnel et surtout l'emploi récurrent de l'expression « sans doute », que vous utilisez beaucoup, et une vie attrapée par d'autres histoires, celle de la délinquance, effectivement, comme vous le disiez, celle de l'université, celle de Paris, celle du vin même, à un moment donné, des tavernes, de l'église, de la prostitution, des coquillards, celle des querelles d'une époque, une époque où la vie, semble-t-il, pesait moins lourd qu'aujourd'hui, comme en témoignent les longues pages que vous consacrez également aux tortures diverses et aux pratiques courantes et codifiées d'exécution, comme la pendaison, puisqu'on en parlait justement à l'instant. Alors justement, je m'adresse à celle qui a travaillé sur la délinquance et donc j'imagine aussi sur ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les exécutions. Qui et pourquoi pend-on ? Et je pense évidemment au gibet de Montfaucon, pas très loin d'ici d'ailleurs, vers la place du colonel Fabien, auquel vous consacrez quelques pages.
Alors je précise aussi qu'on ne pend pas tant que ça. Les historiens ont montré, notamment Claude Couvard, qu'en fait la peine de mort n'est pas tellement appliquée au Moyen-Âge. C'est compliqué, il faut faire appel à un bourreau, ça coûte cher, c'est agaçant. Cette peine de mort n'est pas si courante que ça. Voilà. Elle est considérée comme une punition exemplaire. Hein. On pend pour faire un exemple. Et c'est la pendaison, c'est la peine de mort du peuple. Le noble, il est décapité, et c'est honorable. La pendaison, c'est particulièrement difficile pour Villon, et c'est ce qu'il raconte. Hein. Dans la poésie, il ne parle pas tellement de la douleur de la mort, il parle du fait qu'on reste pendu. On reste pendu pendant des mois. Hein, le corps se décharne, se déchiquette par paquets. Et ça, c'est terrible, parce que ce qui motive les gens au Moyen-Âge, hommes et femmes, et peuples et nobles, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la sens de l'honneur. Et ça, la pendaison, c'est le déshonneur pour le condamné, mais aussi pour la famille, pour les proches.
Alors, se saisir d'un tel personnage, Sophie Brouquet, sur lequel on a tant écrit et sur lequel on sait finalement si peu, enfin de moins en moins peu, mais néanmoins si peu, qu'est-ce que ça signifie pour un historien et au fond, en quoi est-ce que ça pourrait nous renseigner de ce qu'est la pratique de l'histoire pour vous ?
Alors, le fait d'avoir des trous dans une bibliographie pour un ou une médiéviste, je dirais que c'est monnaie courante.
J'imagine.
Surtout si l'on s'attaque à des gens qui ne sont pas de la noblesse ou des princes. Donc, ça, je dirais que quand je travaille sur les peintres, c'est la même chose. Je ne sais pas où ils sont nés, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils deviennent. Mais l'avantage de Villon, c'est que c'est un homme qui est passé par plusieurs milieux sociaux, ce qui est plus rare, hein, par contre, à l'époque. Puisqu'il est issu du peuple, il passe quand même dans le milieu de la toute petite élite de gens cultivés. C'est 0,001% de la population. Il fréquente les grands poètes de l'époque, comme Charles d'Orléans, les puissants. En même temps, il fréquente les bas-fonds. Donc, voilà, c'est ça qui m'intéresse chez Villon. C'est qu'à travers son parcours chaotique et à trous...
Et bref.
On touche énormément d'aspects de la population médiévale.
Alors on a évidemment beaucoup écrit sur Villon, biographie romancée, comme celle de Tellet d'ailleurs, hein, dont on va parler tout à l'heure. En général rythmée par au moins trois grands faits, hein, qui sont le meurtre de Philippe de Sermoise par l'encore jeune Villon, le vol du collège de Navarre avec des membres de la coquille, la rixe finale de Ferbouc, qui va le condamner à mort. Qu'est-ce qu'il fallait écrire d'autre ou de plus ? Qu'est-ce qu'on ne savait pas encore ? Alors là, je pense davantage aux faits biographiques. Ou qu'est-ce qu'on peut encore espérer trouver ?
Sophie Brouquet. Je crains pas grand-chose. J'aimerais bien, mais... Ce que j'essaye d'avoir apporté, c'est... Vous avez quand même d'un côté des biographes de Villon, et puis de l'autre côté des spécialistes de la poésie de Villon. Ce que j'ai essayé quand même d'apporter, c'est de montrer combien cette poésie Alors, je ne suis pas une spécialiste de la poésie médiévale, mais combien cette poésie éclaire le personnage et éclaire la période. Et donc, c'était mon idée, ça, de réutiliser le texte, même de Villon, pour le replacer donc dans les différentes cultures qu'il a côtoyées, culture de cour, culture des coquillards, des mauvais garçons, culture des universitaires. Et c'est ça qui fait la richesse de Villon, c'est qu'il a une poésie à au moins 3 ou 4 niveaux de langage.
Alors, on va y revenir, bien sûr, mais la bibliographie en fin d'ouvrage est évidemment copieuse. Et curieusement, parmi les textes de deuxième main, en même temps, je dis curieusement, mais à vous entendre, ça paraît tout à fait évident. Mais parmi les textes de deuxième main que vous citez, celui auquel vous avez recours comme une sorte de fil rouge de votre ouvrage, est le texte d'André Suarez, François Villon, paru en 1932, l'ouvrage donc d'un poète et non pas d'un historien. Quel Villon est-ce que vous y avez, vous, trouvé, Sophie Brouquet, que vous n'avez pas trouvé ailleurs, au point justement de le faire un petit peu travailler l'ensemble de votre texte? C'est vrai qu'on le retrouve à plusieurs reprises.
C'est un Villon romantique, c'est un Villon vu par un poète. Et là, c'était, comme je ne finis pas mon livre à la disparition de Villon, mais que j'essaie de vous montrer sa postérité, je trouve que le texte de Suarez est très représentatif du mythe Villon.
C'est-à-dire?
Parce qu'il y a la vie de Villon, et puis après il y a le mythe qui se crée dès qu'il disparaît. Dès qu'il disparaît, un mythe se crée autour de lui, mais même le mot Villon, Villon, devient villonné, hein, c'est-à-dire être un écornifleur, être un... Et donc, c'est très rare, ça. Hein, c'est très rare qu'un poète donne naissance à un mot de la langue et ne soit jamais oublié. Et donc, Suarez est très représentatif de cette approche qui s'affranchit des données historiques pour aller à la quintessence de la poésie de Villon.
Alors justement, qu'est-ce qu'il fait de Villon, Suarez ?
Il en fait un poète maudit, un poète d'une modernité affranchie de toutes les règles. Et en partie, il a raison. En autre côté, j'espère avoir montré qu'il était vraiment l'homme de son temps.
Alors je vous entends dire depuis tout à l'heure, petite parenthèse, je vous entends dire Villon. Alors je ne vais pas dire une bonne fois pour toutes, mais Villon, Villon. Alors j'imagine que ça dépend du professeur de français qu'on a eu.
Oui.
Villon ou Villon ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas comment prononcer au Moyen-Âge.
Qu'est-ce qui a motivé votre choix à vous, qui l'appelait Villon ?
Je ne sais pas.
Ça vient comme ça.
Ça vient spontanément.
Alors les deux derniers chapitres, Sophie Brouquet, vous venez de le dire justement, sont consacrés à la légende de Villon, hein, juste après sa disparition. Sont consacrés notamment à, alors je pense par exemple au recueil des Repus Franches, aux évocations de Rabelais, qui sont nombreuses, et puis à toutes les imitations qu'il y a pu y avoir dans le sillage de Villon. Qu'est-ce que ces imitations, donc du milieu du XVe siècle jusqu'au XVIe siècle, disent de ce qu'on a retenu de lui ?
Alors ce qui pose problème, qui est intéressant, c'est qu'on a quelqu'un quand même qui a une vie agitée, qui disparaît, et pourtant sa poésie est connue. Elle reste.
De son temps déjà.
De son temps, puisqu'on a un sermon, le fameux sermon du mouton hein, sacrifié, qui cite carrément le dernier poème de Villon. Et je pense qu'il y avait à Paris un petit milieu que j'essaie de brosser, qui est ce qu'on appelle le milieu de la basoche. Ce sont ces étudiants attardés, ces jeunes qui travaillent pour l'administration royale, on va dire, mais qui n'ont pas réussi à percer et qui sont un peu contestataires. Ce sont eux qui organisent le théâtre aussi à Paris, les farces, les sotties. Ce milieu connaissait les poèmes. Villon se plaint lui-même hein, à un moment qu'on fait on le copie, on l'imite. Et ce qu'ils ont retenu, bah c'est la taverne. Ils ont connu Villon à la taverne et c'est cet aspect-là qu'ils ont retenu. Le côté plutôt godelureau, buveur, souteneur. Et l'aspect tragique a très vite disparu. L'aspect tragique a très vite disparu, comme on le voit dans Rabelais, hein, où il est complètement masqué. Et ça, c'est parce qu'il appartenait à ce milieu, qui est un milieu qui est difficile à cerner, parce que justement, ce sont des gens qui sont plutôt contre les autorités. Et donc, les rares fois où on entend parler, c'est parce qu'on leur a interdit de jouer telle pièce, on leur a interdit de manifester telle chose. Et pourtant, ce milieu, on le sent. Alors, voilà, ça, c'est le problème de l'historien.
On a Qu'est-ce que ça veut dire pour un historien? On le sent?
On le sent, mais on ne peut pas affirmer, donc d'où les sans doutes.
Et les points d'interrogation, comment circulent ces poèmes?
Oralement, en chanson et oralement.
Alors comment est-ce qu'on va passer justement de ce Villon farceur, buveur, dosseur, voleur, trompeur, fantasque, celui de Rabelais d'ailleurs hein, aussi après, au Villon poète maudit, tel que les poètes romantiques l'ont relu, et puis même tel que Suarez a pu le relire après, au début du XXe siècle.
Ce sont effectivement les romantiques, avec quand même un peu de retenue, hein. Victor Hugo, par exemple, a hésité pour Notre-Dame de Paris. Il n'a pas pris Villon pour faire le personnage principal. Il a pris un poète qui est un peu plus tardif, qui s'appelle Gringoire, qui a vraiment existé. On oublie. Hein. Et parce qu'il y avait ce côté quand même très provocateur chez Villon qui le gênait un peu. Celui qui le redécouvre, c'est Théophile Gautier dans Les Grotesques. Mais bon, voilà, dans Les Grotesques. Hein. Il dit que sa muse est un peu vulgaire quand même. Alors, à mon avis, celui qui s'est senti le plus proche, mais là encore, c'est un point d'interrogation, de Villon, c'est sans doute Gérard de Nerval, qui avait fait un mélodrame sur lui, mais qui l'a perdu. Mais il est vrai que peut-être que chez les romantiques, celui qui s'est senti le plus proche, logiquement, ça pouvait être Gérard de Nerval. Et puis Rimbaud,
bien sûr.
Et puis Rimbaud qui s'est retrouvé, bien sûr, dans ses pas.
Est-ce qu'au fond, la lecture ou la réception de Villon suit ou pourrait suivre le rapport entretenu par chaque époque avec le Moyen-Âge? Est-ce que c'est aussi ça qui vous a intéressé dans la figure
de
Villon?
Oui, bien sûr. Bien sûr, Villon connaît un purgatoire à partir du XVIIe siècle et XVIIIe siècle, où vraiment toutes ces démonstrations à la fois de gouaille et de religiosité profonde, on ne comprend plus ça à l'époque des Lumières.
Alors vous écrivez, Sophie Brouquet, un voleur, un meurtrier, doublé d'un poète, un moraliste raté, un cynique, amoureux, déçu, un clerc dévoyé. François Villon est tout à la fois, tout est son contraire. L'un voit en sa poésie l'âme médiévale, l'autre notre modernité. Et vous, évidemment, c'est la question qu'on se pose. Finalement, qu'est-ce que vous y voyez, après lui avoir consacré tant de
Moi, j'y vois bien l'âme médiévale. La modernité, peut-être, mais en tous les cas, l'âme médiévale, je la retrouve à chaque mot. C'est bien un homme du Moyen-Âge.
Qu'est-ce que vous appelez l'âme médiévale?
De la fin du Moyen-Âge, hein, parce que quand même, la période médiévale, c'est une très longue période. C'est ce mélange très exotique pour nous, ce qui fait que je ne m'ennuie jamais depuis 30 ans que je travaille sur le Moyen-Âge, d'une foi profonde et d'une absence de morale totale. C'est-à-dire que le 19e siècle a mis en parallèle foi et morale. Mais ce n'est pas le cas au Moyen-Âge. On peut très bien être totalement immoral et être très croyant. Et donc il y a ce mélange d'anticléricalisme, parce qu'alors il est d'un anticléricalisme virulent. Enfin, vraiment, quelqu'un écrirait ça aujourd'hui et se ferait vraiment mal voir.
Et très violent à l'égard des ordres des mendiants.
Et ça, c'est très courant à l'époque. On en trouve ça chez tous les auteurs. Il y a vraiment, il suffit de lire les 100 nouvelles qui sont écrites à la même époque à la cour de Bourgogne. Vous avez toujours le bon dominicain qui fait croire à une oie blanche que si elle couche avec lui, elle va donner naissance au 5e évangéliste ou au 14e apôtre. Il est dans ce bain-là complètement. Et alors, Villon est plus connu parce que ses poèmes sont restés. Mais il y a toute une littérature beaucoup moins belle il est complètement dans cet aspect-là. Et donc, on peut être à la fois très croyant, parce qu'il n'y a aucun doute sur sa foi, mais aussi anticléricaliste, très moraliste, et en même temps se dépeindre comme tenancier de bordel. Et c'est ça qui fait le charme de la fin du Moyen-Âge. Hein, j'en dirais pas autant pour des périodes comme le 12e ou le 13e siècle. C'est une période troublée, une période de bouleversement. On va passer à une autre époque. Et on a des attitudes extrêmement tranchées face à la vie, face à la mort. Cette omniprésence de la mort fait qu'on vit à fond.
Thank you.
comment vous, vous le regardiez avant d'entamer ses travaux et comment vous le regardez aujourd'hui après avoir bouclé cette biographie?
Alors moi, je trouvais Villon à chaque pas, puisque je travaillais sur les étudiants. Je le trouvais à chaque pas. Je trouvais dans des clercs assassins, des étudiants assassins que je trouvais à Toulouse, à Oxford, à Paris. Je le trouvais dans les compagnies théâtrales d'étudiants qui faisaient des parodies ou des satires. À chaque pas, je le retrouvais dans les canulars aussi. Et du coup, il fallait qu'un jour ou l'autre, si vous voulez, je m'adonne à le replacer dans toute cette période.
Vous l'avez évoqué, Sophie Brouquet, tout à l'heure, hein, alors sans faire de psychologie de bazar, hein, mais il y a cette question, pourquoi choisir la taverne plutôt que l'église, qui est d'ailleurs le titre de l'un des chapitres du livre. On a le sentiment, et dans la bande dessinée dont on va parler aussi, on a vraiment le sentiment d'une sorte de descente aux enfers et d'une série systématique et probablement assez désespéré de mauvais choix ou d'échecs incompréhensibles. Il a l'air, en tout cas, victime de la fortune qui se jouerait des hommes et des méchants et des puissants. En tout cas, c'est ce que Villon dit et ressent en particulier dans ses poèmes, même s'il peut lui arriver d'être repentant, hein, vers la fin surtout. Vous, comment est-ce que vous voyez justement ce destin? Comment est-ce que vous comprenez, alors vous parliez de psychologie tout à l'heure, prudemment?
Oui, on a la chance quand même d'avoir un poète qui parle beaucoup de lui, donc on peut quand même avancer quelques...
Qu'on ne peut pas toujours croire.
Voilà. Mais en fait, des ratés comme Villon, il y en a beaucoup à l'époque. Il y en a beaucoup parce que l'université est en train de changer. L'université qui était très ouverte au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y avait beaucoup de systèmes de bourses, de solutions pour faire des études. Est en train d'être accaparé par des familles, toutes ces familles qui dénoncent à longueur de testament ses anciens camarades en plus. C'est ça qui le rend fou furieux de les voir réussir, avec une certaine hérédité des charges, qui fait qu'il devient de plus en plus difficile de se faire une place dans le clergé, qui pour un jeune homme de famille modeste est la seule solution à l'époque. C'est pas parce que d'ailleurs on est dans le clergé qu'on va vivre, bon voilà, saintement, hein. Il n'en est pas question. En tout cas dans la pensée de Villon. Mais ces clercs solus, on les appelle comme ça, ces clercs dissolus, ces clercs qui sont en rupture de banc, on les trouve partout, on les trouve justement dans les bandes de...
Qu'est-ce que c'est exactement qu'un clerc?
Un membre du clergé, tonsuré, qui bénéficie de gros avantages. Les étudiants n'ont pas à faire le service militaire, le guet, ne payent pas d'impôts, ils sont jugés par la justice de l'évêque qui est une passoire... Et ils espèrent avoir un bon bénéfice. Hein. Il lui dit, moi, je voudrais être un bon gros chanoine avec un bénéfice. J'aurai ma maîtresse. Là, il fait une description, hein, du chanoine dans son lit, à baldaquin avec sa maîtresse. C'est ça qu'il espère. Et peut-être en riant un peu, mais enfin, il voudrait bien. Et ça, il n'y arrive pas. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à ne pas y arriver, puisque en fait, il y a une fermeture sociale à cette époque-là qui fait que beaucoup de ces étudiants attardés restent sur le carreau. Alors, tous ne vont pas, bien sûr, tomber dans la délinquance, mais il y en a, on en trouve partout. On en trouve partout. Et on en trouve dans les révoltes, on en trouve dans les troupes de délinquants. On en trouve quand même beaucoup.
Et le Villon qui va sortir de la prison de Mende, où il va sortir un peu miraculeusement, hein, comme ça lui arrive d'ailleurs assez souvent, amnistié par le nouveau roi Louis XI, qui passait par là, justement, miraculeusement. Donc quel est l'homme, et peut-être même le poète, qui revient de là?
Oui, là c'est un tournant, hein, vraiment, dans sa vie. C'est un homme brisé. C'est un homme brisé, c'est un homme qui a compris que peut-être que maintenant il allait avoir affaire à des difficultés. Jusque-là, il a cru qu'il passerait à travers tous les filtres. Et là, il s'est heurté à quelqu'un de dur. Et c'est un homme vraiment brisé. Et là, le côté joyeux Luron disparaît quand même un petit peu, bien que Il a du mal quand même, parce qu'à la fin du testament, il faut encore quand même qu'il fasse une dernière bravade. Mais il a changé, là, vraiment, il a complètement changé. Les gens du Moyen-Âge ne supportent absolument pas la prison. La prison n'est pas une peine, hein, au Moyen-Âge. On y enferme les gens en attendant un jugement. Et tous les témoignages qu'on a, on a beaucoup plus de plaintes, je dirais, presque sur la prison que sur la torture. Le fait d'être enfermé, c'est quelque chose d'insupportable.
Cet épisode-là, Luigi Critone, est évidemment décrit dans le troisième volume de jeu François Villon, dont on va parler tout à l'heure, qui est un épisode très violent, où effectivement, dans lequel son corps, en tout cas, subit des violences inouïes, où il va subir des tortures. Est-ce que ces scènes-là sont nécessairement les scènes les plus difficiles à dessiner ?
Le problème, c'est de trouver, pour moi, ça a été de trouver le juste équilibre entre montrer l'aspect terrible de la scène sans tomber dans le gratuit, dans la complaisance. Ça a été d'ailleurs un problème pendant un peu toute l'histoire, parce qu'il y a plusieurs scènes où j'ai essayé vraiment de bien réfléchir à faire passer la violence sans l'esthétiser, sans la rendre spectaculaire. Voilà, je voulais pas que ça soit comme dans la scène du viol d'Isabelle, par exemple. Ça a été une autre scène qui m'a beaucoup, où je me suis posé des questions, comment rendre la chose, la violence, sans la célébrer, sans la rendre, sans en faire un spectacle. Voilà, c'était ça un peu.
Et du coup, quelles sont les solutions que vous avez trouvées ? Je pense notamment à cette scène de viol, hein, qui est une scène terrible, alors qui n'a probablement pas existé. Hein, je parle sous le contrôle de Sophie Brouquet.
C'est un épisode.
Durant laquelle Villon aurait livré sa propre maîtresse, son amante, aurait livré au coquillard son amante pour un viol collectif.
Je pense que c'est un peu une licence de Jean Tellet. Il a ajouté les personnages sont vrais et Isabelle et sa mère. Catherine sont des vrais personnages, mais l'épisode du viol, où non, on n'a pas effectivement de preuves que ça soit vraiment passé comme ça.
Donc les solutions
graphiques que vous avez trouvées, moi j'ai essayé de donner des symboles, en fait. On voit pas grand chose, mais on a, je pense que dans la page, c'est une page en fait finalement qui est concernée, on a une impression, le pied d'un coquillard qui est posé sur les cheveux d'Isabelle, par exemple, qui tire. Donc il y a de la douleur et tout, mais sans aller dans la description détaillée ou complaisante dans la description de la violence.
Alors vous parlez des coquillards. Alors c'est vrai que Jean Tellet, dans son roman à partir duquel vous avez travaillé, hein, Tellet dans son roman fait de Villon un membre à part entière des coquillards, ce qu'il n'était sans doute pas, en tout cas d'après Sophie Brouquet et bien d'autres, hein, ce qu'il n'était sans doute pas. Vous dites au fond que c'est davantage par l'usage de la langue, hein, qu'on pourrait le rapprocher des coquillards. Il en a sans doute un peu fréquenté, les coquillards, qui étaient donc cette organisation, hein, cette espèce de compagnonnage étrange, organisation criminelle qui devait à l'époque rassembler un petit millier de membres à peu près, quelque chose comme ça, où chacun avait leur spécialité. Et effectivement, Villon en a fréquenté quelques-uns, sans pour autant en être membre, mais en utilisant, en jouant avec l'argot des coquillards, avec le jargon des coquillards, à partir duquel il va écrire lui-même des poèmes. Donc le lien se joue par la langue.
Oui, c'est un peu, si vous voulez, un jeune homme de bonne famille qui s'encanaille, mais il les côtoie. Il en connaît plusieurs. Colin, de Cailleux, oui. Les coquillards, eux, ne parlent jamais de lui. Hein, ne parlent jamais de lui, ne l'évoquent jamais. Il est fasciné par eux. Il est fasciné par eux, mais il n'est pas assez sérieux pour eux. Il n'est pas assez rentré dans la criminalité. Mais évidemment, il est fasciné par ce monde, par ce langage. Il est fasciné par le langage en règle générale. Hein. Il adore tous les patois provinciaux. Il adore. Et donc, cet argot qui apparaît à ce moment-là, et ça le fascine absolument.
Alors, quels pourraient en être les enjeux pour lui ? Parce que quand on lit, alors vous montrez aussi, il y a quelques traductions de ses courts poèmes en jargon, en argot, qui doivent être une tannée à traduire. Enfin, ça doit. Que vous n'avez d'ailleurs pas traduit dans la biographie que vous citez et qui, à l'époque, devait être parfaitement incompréhensible parce que extrêmement codifié, enfin, dans un argot illisible, par la suite encore plus, mais même à l'époque, qui devait déjà être illisible.
Ah oui,
donc, quels en étaient les enjeux pour lui, à proprement parler, sachant qu'il ne pourrait quasiment pas être déchiffré ?
Ah, mais c'est pour ce petit milieu. Il écrit pour ce petit milieu qui est à Paris, dans les tavernes, et qui le comprend plus ou moins bien. Il y a plusieurs niveaux de langage. Hein. Il y a un premier niveau de langage où les gens comprennent rien. Un deuxième où ceux qui sont un peu affranchis comprennent. Peut-être encore un troisième niveau de langage souterrain autour de l'homosexualité, qui est alors le tabou absolu.
Dont vous parlez un petit peu, malgré tout.
Là, il y a quelque chose qui fascine un poète. Hein. C'est quelqu'un qui... Il a fait une balade en vieux François aussi. C'est quelqu'un qui est passionné par la langue et les jeux de mots, etc.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous lire un tout petit extrait de ces fameux courts poèmes en jargon?
Oui. Alors, je le lis, le poème original.
Comme vous voulez.
À Paroire, la grand-mate gaudit, haut accolé son dupe et noirci, et par les anges suivant la paillardie, son greffier et prince cinq ou six. Là sont les baies-fleurs au plus haut bout assis, pour le havage et bien haut mis au vent, échequé, moi, tous ces coffres massis, c'est car vendangeur d'aisance circoncis.
Est-ce que vous pourriez nous en lire la traduction, s'il vous plaît?
À Paname, on s'éclate sur le grand gibet, où les condamnés sont pincés et noircis par les sergents qui poursuivent leurs ébats, sont accrochés par paquets de cinq ou six, les voleurs y sont mis à la place d'honneur pour recevoir la pluie et bien prendre le vent. Fuyez-moi vite, c'est cachot épais.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Poète à la ville comme à la cour, écrivez-vous, Sophie Brouquet, François se plie aux formes poétiques de son temps qu'il ne cherche pas à bouleverser. Alors, ce qui remet aussi un petit peu en cause ce qu'on a pu écrire de Villon, c'est-à-dire qu'il emploie le lait ou la ballade, notamment beaucoup la ballade, dans leur structure classique. Par où passerait alors pour vous, en tout cas, le bouleversement Villon? C'est-à-dire ce qui en ferait, alors vous vous dites l'âme du Moyen-Âge, mais ce qui en ferait aussi le premier poète moderne.
Alors ça se voit très bien, par exemple, dans la comparaison avec Charles d'Orléans. Quand ils font des poèmes sur
peut-être
le même sujet...
Charles d'Orléans.
Alors Charles d'Orléans, c'est l'autre grand poète de son temps, et ça c'est quand même assez extraordinaire, qu'ils aient pu se rencontrer, qu'ils aient pu se sentir, s'apprécier, et puis ça n'a pas marché, parce que Charles d'Orléans, c'est un fils de France, c'est un prince à la fleur de lys. Il sait qu'il est le plus grand poète de son temps, mais il fait ça comme en grand amateur. Et ils ont écrit tous les deux des ballades sur le même sujet, comme la ballade des contre-vérités, et, qui était un concours littéraire qu'avait fait Charles d'Orléans. Et la ballade des contre-vérités de Charles d'Orléans, c'est un pur exercice de style. Alors que dans cet exercice de style, Villon fait passer des considérations sur lui.
Donc ça serait l'introspection qui serait le grand bouleversement de Villon pour vous?
Oui, oui, oui.
Tutti morimmo a stento ingoiando l'ultima voce tirando calci al vento vedemmo sfumare la luce, l'urlo travolse il sole, l'aria divenne stretta, cristalli di parole, l'ultima bestemmia detta, prima che fosse finita. Ricordammo a chi vive ancora che il prezzo fu la vita per il male fatto in un'ora. La 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 la.
Comme un pendant au début de l'émission, un autre italien, la balade des pendus bis, ou presque. Hein, c'est une sorte de version de la balade des pendus par Fabrizio De André, qui a été poète, auteur, compositeur, anarchiste, hein, disparu à la fin des années 90, je crois, 99, et qui a notamment traduit et passé Brassens en Italie. Villon pourtant quasiment inconnu, enfin, vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord entre vous pendant qu'on écoutait la chanson, mais quasiment inconnu en Italie, c'est ce que vous dites, Luigi Critone. Qu'est-ce que la langue italienne, là, telle qu'on l'entend, pourrait lui donner ou lui retirer par rapport au poème français? Vous qui dites que Villon est bien trop français pour être adapté en italien.
Oui, j'ai vite compris que c'était un personnage très français, d'ailleurs malheureusement un peu oublié aussi en France, mais qu'on a, je pense, c'est l'intérêt un peu aussi dans du roman de télé, de ma bande dessinée et du livre de Sophie, de faire redécouvrir ce personnage. Par contre, en Italie, aucune trace, on l'étudie, on l'a jamais étudié à l'école. Voilà, donc dans ce sens-là, c'est un personnage très français. C'est un personnage de la littérature française. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire, bien trop français, pour un Italien, ou en tout cas pour l'Italien que vous êtes? Ça veut dire qu'il y a eu des points de résistance pour vous aussi?
Ah non, c'est pas... Non, je pense qu'on pourrait... on peut très bien... Moi, j'ai pas eu du mal à comprendre le personnage, c'est juste qu'il a pas dépassé... la frontière, quoi. Il est pas arrivé, à part, je découvre, justement, un historien italien qui s'en est occupé.
Sophie Brouquet.
Moi, je dirais qu'il est même pas français, il est parisien.
Ouais.
Vous savez qu'avec les rimes, les spécialistes de la littérature, avec les rimes, on trouvait qu'il avait l'accent du Titi Parigo.
Donc on aurait une idée de la façon dont il parlait.
Ouais. Quand il dit « je suis parisien, près de Pontoise, mon cul me poise », c'est de l'accent Parigo. Et même pas français, il est parisien. Vraiment.
Oui, je trouve que dans le roman de télé, on ressemble beaucoup ça. J'ai eu cette impression quand j'ai lu le roman, on parle vraiment de Paris. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussé à relever le défi. J'avais envie, j'étais à Paris depuis, donc c'était depuis 2-3 ans. Et j'avais envie de raconter une histoire qui s'est passée à Paris, même si...
Vous aviez envie de dessiner Paris?
Oui. Et je me suis dit que ça aurait été intéressant de pouvoir marcher dans les rues. Dans les rues que j'étais en train de dessiner, ça m'aurait aidé à me plonger dans cette époque.
Alors, une bande dessinée historique, ça se travaille avec des sources iconographiques, j'imagine. Et pourtant, le Paris que vous décrivez, alors je pense surtout à celui du premier volume, n'insiste pas tellement sur l'illustration historique à proprement parler. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose dont vous vous méfiez?
Ah non, pas du tout, non, c'est juste un choix de narration, encore une fois. Je voulais éviter le côté très présent en général dans la bande dessinée historique, qu'il y a une espèce de règle qui dit que la bande dessinée historique doit être détaillée, et c'est très juste, je trouve, mais je voulais éviter ça, je voulais éviter le côté didactique un peu. Je voulais pas raconter l'histoire avec un grand H, mais l'histoire d'un homme. Du coup, je voulais que ma vision soit centrée surtout sur les personnages et aussi l'intention de faire... Je me suis imaginé en train de dessiner Paris comme si j'étais là. Alors, quand on dessine d'après nature, on n'a pas le temps de rentrer trop dans les détails. On fait plutôt des croquis. Je voulais donner cette impression, comme si j'avais pu faire des aquarelles de Paris en y étant. Et c'était un peu mon but, c'était vraiment de donner une impression un réalisme, mais c'est le réalisme, je trouve, c'est pas dans les détails, mais plutôt dans les ambiances.
Alors, s'il faut être un petit peu didactique, malgré tout, Sophie Brouquet, à quoi ressemble ce Paris étudiant de Villon?
Oui, parce qu'il y a deux Paris, hein. Il y a le Paris rive droite.
Le Paris rive droite où il est né, et
de
le Paris rive gauche,
c'est le Paris rive gauche
où il sera éduqué.
Il est vrai qu'il reste pas grand-chose, hein. Aujourd'hui, de ce Paris de la rive gauche, c'est vraiment assez compliqué. C'est un dédale de rues extrêmement étroites, avec énormément de parties végétales, hein, parce qu'il y a beaucoup de monastères, d'institutions religieuses, il y a énormément de verdure. Et ça reste encore très rural. Et on nous fait la description, par exemple, de la rue des écoles, qui est une rue dite du foire, parce qu'on y met du foin, qui est une véritable, une bauge. Enfin, c'est absolument dégueulasse, hein, y a pas d'autre mot. Les prostituées recrutent au rez-de-chaussée, les salles de classe sont au premier étage. Enfin, c'est une... un véritable cloaque.
Et la rive droite ?
Alors la rive droite, c'est pas mieux, puisqu'on a tout le quartier de la Boucherie, hein, là où se trouve le Forum des Halles aujourd'hui, hein, tout le quartier de la Boucherie, la place de Grève, c'est la place du, c'est le port, donc on débarque tout. Et là on a beaucoup plus de descriptions. Et c'est, alors là, par contre, c'est très urbanisé. Et il est certain qu'un gamin comme Villon, parce qu'à l'époque, on lâchait les gamins dans la nature à 5 ans, hein, a vu des tas de choses. Vraiment. Il était au spectacle depuis les pendaisons, les bûchers, les prostituées qui racolaient dans le cimetière des innocents, les fosses communes à ciel ouvert. C'est assez difficile de nous... Je pense qu'on nous plongerait dans cette période-là, on aurait vraiment du mal quand même.
Alors, paraît aux éditions Delcourt le troisième et dernier volume de Je, François Villon, un cycle adapté donc du roman historique du même nom de Jean Tellet. Et aujourd'hui donc, Je crie à toutes gens merci, qui s'ouvre sur une série de planches éclairées au feu et s'achève sur une page case unique, à ciel d'orage, en tout cas sous ciel d'orage. Entre-temps, Villon, qui a 30 ans, erre dans la campagne française, alors qu'il a été dénoncé à Paris pour le fameux vol du collège de Navarre, se trouve emprisonné à la prison de Main, dont on a déjà parlé, torturé, puis libéré sur ordre du roi Louis XI. Le retour à Paris auprès de Guillaume de Villon va être bref, hein, le temps donc d'une dernière rixe nocturne à laquelle il participe à peine. Lui et ses trois complices, à peine plus coupables, donc, sont donc arrêtés. Il est emprisonné, condamné à mort, et puis après, recours auprès du Parlement, condamné à 10 ans seulement de bannissement de Paris. Un dernier volume qui court donc sur 2 ans seulement, ce qui est donc évidemment très différent des 2 autres volumes. Qu'est-ce que ça a impliqué pour vous que ce rythme ralentit dans ce dernier volume? Qu'est-ce que ça a impliqué dans le découpage, voire dans le dessin et même dans la structure des planches?
Oui, je pense que c'est un peu mon tome préféré, si je peux le dire, parce que j'avais envie de le faire. Quand j'ai la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler sur le projet, c'était de diviser le roman en 3. Et j'ai vu tout de suite que la troisième partie, c'était le crépuscule un peu, c'était la décadence du personnage. Ça m'intéressait beaucoup. Il y a moins d'action, c'est moins rapide, mais j'aime bien avoir le temps de faire des planches qui sont contemplatives, qui racontent pas grand chose, mais qui, je pense,
pas mal
qui
de ajoute... planches muettes.
Oui, c'est quelque chose que j'ai pas mal utilisé dans les 3 volumes, et surtout dans le troisième, il y avait le temps, j'avais de la place pour exprimer ça. Et le final, c'est un peu, c'est venu un peu tout seul, en fait.
Je trouve que c'est parfaitement logique.
Oui, c'est
la planche finale.
C'est le final ouvert, un peu. On m'a même demandé si ça allait continuer, parce que peut-être quelqu'un qui a pas lu, il a écrit fin sous la dernière page, m'a dit mais après ça continue, on découvre ce qu'il devient après, et non.
Alors évidemment, j'imagine, bien sûr, ça continue. Alors, je sais pas si c'est une question qu'on peut poser à une historienne, mais oui, bien sûr, ça continue. Même Rabelais l'a amené jusqu'en Angleterre, jusqu'en Poitou, après, oui. Donc après son bannissement. Hein, donc on ne sait absolument pas ce qu'il est devenu, il s'est volatilisé totalement. Qu'est-ce que vous imaginez?
Moi j'imagine, je suis assez pessimiste. Je suis assez pessimiste parce que... Alors... Ça nous paraît rien, un bannissement, mais dans la société médiévale, un bannissement, c'est compliqué parce qu'on perd toutes ses accroches, on perd tous ses appuis. Lui, il ne sait vivre qu'à Paris. Il ne sait vivre. Dès qu'il sort de Paris, il fait des bêtises.
Il en fait à Paris aussi. Hein.
Oui, mais il a des appuis quand même à Paris. Il s'en sort finalement à chaque fois. Hein. Il a à chaque fois des grâces. Et je pense que ça s'est fini assez mal.
Aussi dans des conditions physiques assez...
Je pense que ça s'est fini assez mal.
C'est pitoyable, oui.
Parce que... Comme on en parle quand même de lui, on continue à en parler, mais on en parle vraiment comme quelqu'un qui a vraiment disparu.
Une petite parenthèse, Luigi Critone, sur votre propre parcours à vous. La structure des planches là, dont on parlait justement, le découpage et la façon dont il est ralenti dans ce troisième volume. Le découpage, c'est votre faiblesse, dites-vous, en tout cas dans un premier temps, il y a bien longtemps de cela. Quand vous arrivez en France, après une école de bande dessinée à Florence, vous faites alors de l'illustration historique, mais vous n'avez pas abandonné l'idée de faire de la bande dessinée, et c'est à Angoulême que tout va se décoincer, disons. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas chez vous dans les découpages, hein? C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Hein? Je ne savais pas ce qu'il en était de votre pratique du découpage à l'époque.
Il faudrait demander aux éditeurs qui m'ont dit ça au début. Oui, il y avait,
non,
il y avait des
choses. Non, j'imagine que vous-même, vous le savez.
Oui,
qu'est-ce qui rendait justement le découpage difficile pour vous? Parce que vous arrivez surtout avec vos dessins. Hein? Donc, il s'agit après, effectivement.
Oui, les dessins, ça passait bien. Par contre, on me faisait toujours la remarque OK, tu sais dessiner, ça, on a compris. Mais par contre, la narration, ça ne va pas du tout dans tes planches. Et comme la narration dans la bande dessinée à la française, si on peut dire ça, c'est très important, peut-être plus important qu'en Italie. En Italie, on aime bien les beaux dessins. Même s'il y a des défauts au niveau de la narration, on pardonne si le dessin est riche et beau. En général, évidemment, je caricature un peu, mais en France, par contre, on fait très attention au rythme. Dès le plus jeune âge, j'ai des lecteurs très jeunes qui m'ont fait des remarques sur le rythme, le découpage. Donc, c'est vraiment une éducation à la lecture qui se fait très tôt. Et j'ai eu un choc culturel avec ça, justement, quand j'ai découvert que le dessin suffisait pas. La qualité du dessin, c'était pas la première chose qu'on regardait même. C'était plutôt la narration.
Le scénario, ce sera pour plus tard, hein, pour vous en tout cas malgré tout. Et ce sera justement avec Jeu, François Villon, adapté certes du roman de Jean Tellet. Donc vous vous appuyez évidemment sur ce roman-là, mais scénarisé par vous. Être aussi scénariste et coloriste aussi, je crois.
Coloriste sur le premier tome.
Sur le premier tome. Oui. Est-ce que ça modifie quelque chose dans le dessin? Est-ce qu'on en fait moins, justement,
oui,
dans le dessin?
Oui, c'est ça, oui. On en fait moins parce que, du coup, on a à disposition toute la palette des possibilités. Du coup, on raconte plus qu'avec les dessins. Alors, par exemple, pour faire un exemple, quand j'ai travaillé sur cette missionnaire, je travaillais avec un scénariste. Donc, j'étais vraiment presque illustrateur de son... Il me donnait un storyboard.
Qui était la série précédente, le cycle précédent.
Oui, l'album que j'ai fait avant Villon. Et du coup, j'étais vraiment illustrateur. Toute mon énergie allait dans le dessin. Alors que sur Villon, j'ai vite compris qu'il fallait partager cette énergie entre scénario, dessin, couleur, et en même temps que j'avais, c'était trois outils que j'avais à disposition pour raconter, pour donner ma vision de cette histoire. C'est très agréable, un peu plus fatigant peut-être, ça demande un peu plus d'effort, mais c'est très puissant. Du coup, la couleur, c'était plus quelque chose que je laissais voir à quelqu'un d'autre, mais je pouvais vraiment l'intégrer dans mon dessin. Je pouvais dire, pendant que je dessinais, je pouvais dire, cette chose-là, je vais la faire avec la couleur. Je vais pas la dessiner. Et pareil dans le scénario. Je vais pas écrire cette bulle parce que ça va se voir dans les dessins. Du coup, les trois étaient vraiment fusionnés et très agréables. Là, j'ai envie d'ailleurs, je suis en train de travailler sur un nouveau projet avec un scénariste. Du coup, je vais me reposer, je vais reprendre mon rôle de dessinateur. Et finalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire la narration. En fait, moi, j'aime bien raconter avec mes pages. C'est la chose qui m'intéresse le plus.
Alors, pour raconter, il faut un personnage aussi. Qui dit bande dessinée, dit dessin. Qui dit personnage historique, dit représentation. Voilà comment André Suarez, tant cité par Sophie Brouquier, le décrit en 1932. Plus noir que mur, plus maigre que chimère, les yeux vifs comme émerillon, tout brun, tout sec, agile et prompt à la fuite quand il faut, lent quand il peut et plein de nonchaloir, un petit homme au regard perçant, dans une orbite creuse, le poil rare et de bonheur le front chauve. Il portait volontiers la tonsure, ne perdant rien à passer pour un clerc. Ça et là, dans ses prisons, on lui faisait la tête rase. Chef barbe et sourcils, comme un navet que l'on râpe. Un grand crâne tondu, un front haut et nu. La figure longue et hâve, ni joues ni lèvres. Des os durs sous une peau tendue, un vrai cuir de grande route. Rôti par le soleil, tanné par le vent et les pluies. Et ça continue encore un petit peu sur quelques lignes. Une description qui revient donc tout entière à Suarez, car il n'existe pas un portrait, pas une représentation de Villon, rien. Donc votre dessin, lui, réaliste, quoique légèrement déformé, en fait un personnage long, effilé, maigre, brun, chevelu, pour autant, oui, celui-là, un visage taillé un peu comme une lame. Ce visage, ce corps, est-ce qu'ils vous sont venus tout de suite ou est-ce que vous êtes passé par des étapes pour trouver Villon? Luigi Creton.
C'est comme d'habitude. J'ai appris qu'il ne faut pas chercher à construire un personnage de façon rationnelle. Moi, quand j'ai un personnage à rechercher, un visage à trouver. Dans le cas du Villon, c'était vraiment, j'avais la chance, entre guillemets, de pouvoir l'inventer de zéro. Et à un moment donné, évidemment, en suivant son caractère et son histoire, j'imagine un personnage qui va vivre ses aventures et petit à petit je dessine et c'est toujours comme ça, c'est pas un processus très rationnel, c'est assez instinctif. À un moment donné, j'ai une tête, c'est lui. Je le sais. Et j'aimerais bien vous montrer les premiers croquis. On voyait, il y avait déjà quelque chose, mais après, peut-être le nez, il a changé, les cheveux, et à un moment donné, je le reconnais en tant que mon personnage. Et là, c'est bon. Là, je peux le dessiner sans réfléchir.
On a beaucoup dit qu'il vous ressemblait. Est-ce que vous avez fini par en convenir, hein?
Je vais finir par lui ressembler vraiment. Non, c'est pas du tout volontaire. Je trouve pas d'ailleurs, mais bon, on me le dit souvent. Du coup, ok, j'assume, mais c'est pas du tout voulu. Et peut-être que c'est un peu inévitable aussi. Un personnage masculin de plus. C'est un personnage avec qui je peux avoir quelque chose en commun, pas l'âge, parce qu'il n'est pas arrivé à mon âge, mais voilà, on ne sait pas.
Sophie Brouquet, vous, comment est-ce que vous vous le figurez? Parce que j'imagine que vous avez fini par le voir.
Oui, alors la description de Suarez, elle se base beaucoup sur la description qu'il fait de lui, Villon, dans le testament. Hein. Le côté, plus de cheveux, etc. Mais je pense que Villon ment. Il grossit le trait en se montrant aussi en mauvais état physiquement, etc. Mais c'est lui qui se décrit comme ça. Hein. Il se décrit comme ça. Hein. Après le passage à main, il fait une description de son physique. Hein. Donc, je pense que c'était quelqu'un d'assez petit. Tout simplement parce qu'à l'époque, les gens étaient petits, surtout les gens du peuple. Et lui se décrit vraiment comme quelqu'un de maigre, de sec, ayant perdu ses cheveux, probablement la plupart de ses dents, comme les gens au Moyen-Âge, dans un sale état, oui, quand même, après l'épisode de prison. Mais je me base sur ce qu'il dit et je pense qu'il en rajoute. Il en rajoute un peu pour se faire plaindre.
Sophie Brouquet, Luigi Creton, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Voilà. Je suis très content d'avoir découvert votre livre. J'aurais bien aimé qu'il soit là avant. Je pense que ça m'aurait aidé dans la réalisation de ma bande dessinée. Je découvre des détails, des choses très intéressantes. Et que j'aurais pu peut-être intégrer des images, comme je vous disais, c'est l'image des loups dans Paris. Ça aurait fait des images, je pense, puissantes.
Oui, voilà. C'est vrai que c'est... Il n'y a pas beaucoup d'images hein, de l'époque, il n'y en a même pas. Mais le peu d'images qu'on voit, qu'il y en a quelques enluminures, des choses comme ça, c'est une ville à moitié démolie, à moitié en chantier.
Oui.
C'est une ville qui n'est pas... qui a été abandonnée, les gens sont partis. Il y avait même des sociétés pour démolir les maisons, pour que les loyers ne baissent pas trop. Ouais, et à côté, ça repart aussi.
L'aspect de l'immigration aussi, je suis en train de lire, j'ai pas terminé encore, mais les immigrés, dont peut-être le papa de Villon,
oui, oui.
C'est très intéressant aussi, c'est quelque chose que je savais pas.
Oui, c'est une ville qui a été occupée, abandonnée. Il y a beaucoup de points communs, c'est-à-dire avec l'histoire très de la Deuxième Guerre mondiale. Hein,
oui,
c'est une ville qui a... Et il y a à la fois beaucoup de difficultés, et puis en même temps, il y a un renouveau qui se fait. Donc il est quand même un peu porteur de ça, et je pense que être parisien à l'époque, c'est comme aujourd'hui, personne n'est parisien.
Oui.
De famille.
Oui.
C'est que des nouveaux venus.
Les vrais Parisiens n'existent
pas. Il n'y en a plus. Ils sont partis.
Oui.
Et donc, il y a tout un renouvellement. Et d'ailleurs, ça se voit encore aujourd'hui. Il y a le quartier, la rue des Lombards, la rue de la Bretonnerie, tout ça, ça date de cette époque-là, avec tous ces nouveaux venus. C'est des gens bougent beaucoup au Moyen-Âge.
Ouais. Et l'autre aspect intéressant aussi que j'ai découvert, c'est cette description très détaillée, très intéressante de la jeunesse universitaire des Parisiens. Par rapport à l'image que j'avais et que j'ai un peu évidemment retranscrite dans ma bande dessinée, ils sont peut-être moins sympas. C'est des rebelles, mais c'est finalement des gens qui aimaient bien, qui profitaient bien des privilèges qui leur étaient.
C'est ça qui est un peu curieux, c'est qu'on a affaire là à un groupe très turbulent, très agité, mais des élites.
Oui.
Et c'est pour ça que ça passe. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on dit toujours, il faut que jeunesse se fasse.
Oui.
Et c'est vraiment un critère pour les tribunaux.
Qui était protégé même.
Pour les tribunaux.
Sinon, ça n'aurait pas...
Ils ont tué... Moi, je travaillais sur les villes universitaires. Quelqu'un qui assassine avec préméditation un marchand, c'est 15 jours de prison.
Oui.
C'est vraiment, aujourd'hui,
oui.
scandalisé.
Oui.
C'est vraiment... Il faut que jeunesse se fasse. Voilà. C'est... Des tribunaux disent, oh ben non. C'est pour ça que Villon est gracié
il en est l'image parfaite. Il est protégé par son tuteur et plusieurs fois.
Et donc pour le viol, je reviens au viol, c'est dans les villes où il y a des étudiants, mais le viol est tellement courant que les femmes ne crient plus au viol, elles crient au feu.
Ah oui.
Parce que les voisins auront peur de l'incendie et vont venir. Parce que si elles crient au viol, personne ne viendra les aider. Devenu tellement banal qu'il n'y a pas du tout de solidarité, vraiment. C'est un milieu quand même assez turbulent. Et donc, le viol n'est pas forcément celui des coquillards. Mais par contre, celui des étudiants, c'est très courant, vraiment. Il y a vraiment énormément de filles violées.
Ils avaient une impunité
totale.
Oui. Et Villon, il a bien profité de ça aussi. Du coup, ça ajoute aussi un aspect intéressant parce que du coup son côté rebelle ça devient
c'est ce qu'on appelait plutôt dans les années 60 les blousons dorés.
Oui.
Et ce qui le rend rebelle, c'est que les autres ont réussi.
Oui.
Et lui, finalement...
Lui, il a refusé, il a choisi plutôt...
Il n'a pas réussi, donc c'est à ce moment-là que là, il va passer de l'autre côté.
Oui.
Épitaphe et rondeau. Sigy est d'or en ce solier, qu'amour oxyde de son rayon, un pauvre petit écolier, qui fut nommé François Villon. Onque de terre Nucillon, il donna tout, chacun le sait, table, tréteau, pain, corbillon, pour Dieu... Dites-en ce verset. Repos éternel, donne à Cille. Sire et clarté perpétuelle, qui vaillant planue écuelle, nuonque d'un brin de persil. Il furet chef, barbe et sourcil, comme un navet qu'on rette ou pelle. Repos éternel, donne à Cille. Rigueur le transmit en exil, et lui frappa au cul l'appel, nonobstant qu'il dit, j'en appelle, qui n'est pas terme trop subtil, repos éternel donne à Cille.
Poésie, ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Élise Leu pour la technique et à Thomas Duterre pour la réalisation. Merci à Sophie Brouquet et Luigi Critone. Vous trouverez toutes leurs actualités sur la page de l'émission à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec le radioactif Nicolas Martin pour sa méthode scientifique.